Vous avez peut-être vécu cette expérience avec un enfant ou un petit enfant. Vous sortez du cinéma et dans un enthousiasme débordant, il commence le récit du film, le long récit. Alors il y avait une jolie reine avec une belle robe, elle marchait sur sa lune, mais il y avait aussi un vilain dragon qui vomissait avec plein de têtes et de cornes. Et puis le vilain, il voulait attraper le bébé de la dame, mais la reine a eu des ailes et elle a pu partir. Et puis là, généralement, vous avez déjà décroché depuis un petit moment et vous dites oui, oui, en opinant gentiment de la tête. C'est peut-être ce genre de sentiment qui vous a traversé à la lecture de ce texte de l'Apocalypse. Tout est tellement si délirant, confus. Toute cette imagerie nous perd dans ce récit de lutte. Nous sommes plongés dans un récit merveilleux, avec la douloureuse impression de ne pas y être totalement invité. Il faut bien être conscient de la difficulté de ces textes et de ce genre particulier qu'est l'Apocalypse. Texte codé, issu du judaïsme du 1er siècle, dont le sens nous échappe en grande partie, il faut bien le dire, à la première lecture en tout cas. Alors, comment nous situer face à cette difficulté? Regardons d'abord comment les autres s'y prennent. Certains ont essayé de prendre les éléments du texte au pied de la lettre. Certains ont identifié le dragon à tel ou tel pouvoir politique, et le font encore. Par exemple, il y a quelques années, Saddam Hussein était présenté ici comme le dragon, le grand Satan. Alors avec ce genre d'interprétation, il est facile de faire peur, de stigmatiser l'ennemi, de jouer les prophètes de mauvais augure, bref, d'instrumentaliser le texte. Et je crois que ce n'est pas ici une bonne solution. D'autres ont esquivé. Ils ont détourné la difficulté en renvoyant ce texte à un simple recueil d'histoires mythologiques héritées du judaïsme du Second Temple. Mélange de récits babyloniens et de cultes iraniens notamment. Beaucoup d'exégètes, c'est-à-dire des spécialistes des textes bibliques, ont suivi cette voie. Mais malheureusement, petit à petit, on conduit à une disqualification du livre, le ramenant à une simple curiosité historique, sans plus aucune actualité pour nous. Mais rappelons-nous les lettres aux églises du début du livre, qui ont été lues dimanche dernier. Nous avions lu celle adressée à l'ange de l'église de Laodicée. Et dans cette lettre, souvenez-vous, était fortement condamné un christianisme tiède qui mêlait allègrement la confession de foi en Jésus-Christ et des croyances païennes. Je pense qu'il est alors peu probable que quelques chapitres plus tard, tout d'un coup, nous passions à uniquement une mythologie qui était considérée à l'époque comme une hérésie païenne, justement. Alors donc, pas de lecture littéraliste. Pas de lecture mythologique, alors quoi? On peut aussi décider de refermer le livre et de passer à des choses plus simples. Un bon psaume, une belle parabole de Jésus, une lettre de Paul bien théologique. Je vous invite à résister encore et à essayer ensemble. Peut-être que si l'auteur adopte cette imagerie, si difficile à comprendre, c'est qu'il parle de réalités difficiles aussi à exprimer. Autrement que par la métaphore, la comparaison. Regardez ce dragon rouge feu, ce dragon en fureur. N'avons-nous jamais entendu mugir la bête dans les pires moments de nos vies ? Quand les mots ne suffisent plus pour exprimer notre ressenti, quand nous avons vraiment mal. Peut-être cette image du dragon peut faire écho en nous. Faisons connaissance avec ce dragon. C'était un dragon rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. On trouve déjà dans la Bible et dans l'Ancien Testament une trace de cette bête, sous forme de monstre marin dans le livre d'Ésaïe. Ce jour-là, le Seigneur interviendra avec son épée acérée, énorme, puissante, comme Léviathan, le serpent fuyant. Comme Léviathan, le serpent tortueux, il tuera le dragon de la mer. Le dragon est présenté ici comme l'ennemi du Dieu créateur. Il vient de la mer pour perturber la création de Dieu et s'attaque directement à lui. Puis, dans le cours de l'histoire d'Israël, le dragon va se personnifier et va s'en prendre au peuple élu, au peuple de Dieu. Dans le livre de Jérémie, il va prendre les traits de Nabucodonosor, roi de Babylone. Il m'a dévoré, il m'a aspiré, il a fait de moi un récipient vide, tel le dragon, il m'a englouti. Il a rempli sa panse de ce que j'avais de précieux. Puis il va prendre l'image du pharaon dans l'Exode. Dieu est mon roi. C'est toi qui as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des dragons sur les eaux. C'est toi qui as écrasé les têtes de Léviathan. Vous le voyez, la Bible connaît déjà cette figure du dragon et l'a fait évoluer au cours de l'histoire de Dieu et des hommes. Et il me semble alors que comparer le mal à un dragon est une manière de ne pas sous-estimer le mal. Le dragon est une créature dangereuse, menaçante, qu'il faut prendre au sérieux. Le danger est réel. Il y a un risque mortel à s'en approcher. Et dans ce texte, en même temps, la certitude de la victoire est proclamée. Vous l'avez entendu à la fin des versets. Le dragon est finalement plus menaçant que véritablement dangereux. Sa fureur n'est qu'une preuve de sa faiblesse. Voilà une des bonnes nouvelles de ce texte. De toute éternité, le combat entre le bien et le mal est réel. Mais le bien sera vainqueur. Le bien sera vainqueur. Cependant, pour le moment, oui, nous sommes dans l'entre-deux. Et le dragon mord encore. Il n'y a qu'à écouter les bruits du monde pour voir la fureur qui s'abat sur certains endroits. Bien entendu, nous pensons actuellement à la situation dans la bande de Gaza. Nous pensons au dernier crash de la Malaysia Airlines. Où encore et encore la violence, le mal, l'absurdité se déchaînent. Et la victoire finale du bien n'exonère pas les hommes de leur responsabilité. L'attente doit se vivre pour nous dans une dynamique d'amélioration du monde, comme dans la prière pour celles et ceux qui sont blessés. Alors je vous propose maintenant de laisser le dragon et de nous intéresser à sa proie, ou plutôt à ses proies. Qui sont les proies du dragon? Je regarde si vous suivez. Vous n'êtes pas trop endormi, ça va? La femme et l'enfant. La femme et l'enfant. Une femme vêtue de soleil et la lune sous ses pieds, sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Comme pour le dragon, si nous retournons dans le livre d'Ésaïe, cette femme est présente. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils ont épanché leurs prières. Ta punition était sur eux comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, qui souffre et crie dans les douleurs. Comme dans ce verset d'Ésaïe, la femme en travail symbolise souvent le peuple de l'ancienne alliance en devenir. Les 12 étoiles sur la tête symbolisent les 12 tribus d'Israël. Alors on peut dire que la femme peut être ici identifiée à l'Église qui prend ses racines dans l'histoire d'Israël. et l'enfant. Eh bien, l'enfant, il est ici le Messie. Allons voir cette fois dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Sachant qu'ils désiraient l'interroger, Jésus leur dit « Vous cherchez le sens de ma parole ? Encore un peu et vous ne m'aurez plus sous les yeux, et puis encore un peu et vous me verrez. Mais en vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction tournera en joie. » Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction puisque son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de son accablement. Elle est toute à la joie d'avoir mis au monde un enfant. Nous pouvons faire le lien entre ces deux textes. La naissance d'Apocalypse 12, mais aussi la mort et la résurrection de ce Christ que nous confessons. Ce texte d'Apocalypse 12, nous pouvons le relire comme une évocation de l'événement pascal. Car à Pâques, définitivement, le dragon est vaincu. Et l'Église, en reconnaissant cette victoire, enfante dans la douleur un Messie. Jésus est issu de la communauté, mais c'est bien la communauté qui enfante Jésus-Christ. Car pour faire de Jésus crucifié le Fils de Dieu et le Sauveur, il faut avoir indiscutablement le regard de la foi. C'est parce que les premiers disciples ont reconnu le Messie dans celui qui meurt sur la croix, et parce que cette vérité de foi est transmise par l'Église à chacun de ses enfants, c'est pour cette raison que la mission de salut peut s'étendre à tous ceux qui croient. Voilà ce matin notre petite promenade avec le dragon, la femme et l'enfant. Et vous le voyez, c'est à nous, encore aujourd'hui, de savoir reconnaître ce Messie et de nous recentrer sur la mission, transmettre la foi, la bonne nouvelle du salut accomplie en ce jour de Pâques. Encore aujourd'hui, pour tous et de toutes les manières, le bien vaincra. Que la grâce de Dieu nous accompagne sur nos chemins. Amen.